Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'être avec nous. On est en osmose et nous allons parler, une fois n'est pas coutume, de théâtre. Puisque voici face à moi, vous pouvez les voir sur la vidéo, vous pouvez les écouter aussi sur le direct et vous pouvez les retrouver aussi en podcast sur www.osmose-radio.fr. Harold David, bonjour Harold.
Bonjour.
Et Michael Perras, bonjour Michael.
Bonjour.
On dit Michael ou Michael ?
Michael.
Michael. Vous représentez tous les deux la Fédération des théâtres indépendants d'Avignon. Pouvez-vous nous expliquer, parce que c'est tout nouveau la Fédération des théâtres indépendants d'Avignon, comment vous êtes né, qui vous représentez, combien de théâtres, parce qu'il y en a quand même beaucoup des théâtres à Avignon.
Tu veux commencer
ou Harold ou Michael?
Donc la Fédération est réellement née, celle dont on parle, c'est la Fédération des théâtres indépendants d'Avignon en 2020, à la faveur, si je puis dire, du premier confinement et de la situation de crise et d'annulation du festival dans lequel tous les théâtres d'Avignon ont été projetés. Et c'est vraiment à l'initiative de Sylvain Cano-Clémente, qui est le régisseur général du Théâtre du Rempart, que la Fédération effective, c'est-à-dire des gens qui sont regroupés ensemble pour se dire waouh, on a un gros souci, là, il va falloir qu'on essaye de trouver des solutions mutualisées et collectives, s'est constitué parce qu'il a pris son téléphone et il a appelé tout le monde. Et puis tout le monde a appelé, aujourd'hui ça fait qu'il y a 47 enseignes donc, qui sont adhérentes à la fédération, ce qui représente à peu près 77 salles avec des lieux très très différents. C'est-à-dire qu'on est, je crois, assez représentatif de la diversité du type de lieux, de salles, de programmation, avec aussi bien des petites salles comme les nôtres, la typique ou l'archipel théâtre, à des grosses salles plus dédiées au théâtre de divertissement du type Paris ou Palace, etc. Puis au milieu, énormément
de
lieux.
De la fédération.
Oui, tout à fait. Et au milieu, enfin entre ces deux extrêmes, si je puis dire, un grand nombre de lieux intermédiaires qui ont des démarches artistiques et culturelles, qui sont permanents à l'année avec une activité récurrente ou pas, ou alors permanents mais de manière ponctuelle, c'est-à-dire pas permanents tous les jours mais avec une présence régulière tout au long des saisons entre deux festivals. Et donc voilà, c'est... vraiment cette situation de crise qui nous a réunis en se disant qu'on avait plusieurs enjeux et plusieurs objectifs à porter. D'une part, une fois passé la sidération de l'annulation, de se dire comment on fait pour s'en sortir, et donc d'être vraiment un relais d'information et de partage de solutions, d'idées, etc. pour faire face à la difficulté vraiment de se retrouver avec un chiffre d'affaires qui passe de X milliers d'euros à zéro. Mais quand zéro, c'est pas une image.
Surtout que le off, c'est quand même réalité, la période où vous faites le chiffre d'affaires, quoi.
Pour ceux qui n'ont plus d'activité saisonnière, oui. Les autres, un peu moins, mais malgré tout, enfin la répartition pour des théâtres qui sont ouverts actuellement à l'année, elle est de l'ordre de 80-20. Donc c'est 80% qui se fait effectivement pendant le festival et 20% le reste de l'année. Donc évidemment, ça a été une nécessité de se fédérer pour ça. Et ensuite, le deuxième objectif qui a surgi assez vite, c'est que ça manquait en fait dans le paysage culturel avignonnais de faire en sorte que ces salles, qui sont toutes des salles indépendantes privées, puissent avoir une entité qui puisse représenter et défendre leurs intérêts de manière corporatiste, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a des problématiques qui sont propres à celles d'exploitants de salles que nous sommes au sein d'Avignon et qui donc nécessitent d'être travaillées de manière commune et partagée. Donc ça a été le deuxième objectif. Et le troisième, qui est peut-être le plus important, c'est qu'une fois qu'on a pris conscience de ça, on s'est rendu compte que c'était absolument nécessaire de faire connaître ce qu'étaient les théâtres d'Avignon, quel était leur travail, quelle était leur mission, que nous n'étions pas que, comme ça a été beaucoup colporté dans la presse et ailleurs, des loueurs de salles, exploiteurs de compagnies qui n'étaient là que pour...
Il y en a, mais pas ceux qui sont là en permanence et qui bossent
toute l'année. Il n'y en a pas tant que ça, il faut quand même relativiser. Puis d'abord, quand on dit il y en a, un jour, il faudra peut-être quand même dire de qui on parle, si c'est vraiment le cas, plutôt que de faire une espèce de généralité qui englobe tout le monde. Et
pendant le festival, parce que des fois, ce n'est pas les mêmes d'une année sur l'autre, mais c'est vrai qu'on
a
tous vécu des séances compliquées.
C'est le propre de toute entreprise. Il y a des entreprises saisonnières qui tournent d'une année sur l'autre, etc. Les théâtres d'Avignon, comme tous les théâtres de France, privés non subventionnés, sont des entreprises commerciales soumises aux mêmes problématiques que n'importe quelle autre entreprise. Donc de ce point de vue-là, c'est assez normal qu'il y ait aussi un turnover dans les fonds de commerce.
Alors en parlant de ça, on a vu passer dans la presse la fermeture du Clash Théâtre qui est annoncé comme un des premiers à devoir fermer à cause de cette crise sanitaire. Mm-hmm. Parce que parmi vos adhérents, les membres de la fédération, il y en a qui sont en très grande difficulté en ce moment et qui envisagent de fermer, de mettre la clé sous la porte. Ou alors est-ce que vous arrivez encore à survivre ? Comment ça se passe ? Michael ou Harold ?
Parmi les adhérents de la fédération, en tout cas, on n'a personne qui nous a dit qu'il était en train de déposer le bilan, pour être clair. Les raisons sont diverses, parce que d'abord, les modèles économiques sont très différents d'un établissement à l'autre, selon son ancienneté, selon que l'exploitant de salle est propriétaire ou non des murs de commerce et du théâtre. Enfin, y a vraiment à chaque fois, c'est un cas particulier, c'est une histoire particulière. Donc chacun, dans un premier temps, a cherché des solutions propres pour répondre à sa problématique liée à son modèle économique singulier. Ensuite, quand même, on a la chance dans ce pays, même si on critique beaucoup le gouvernement actuellement, d'être dans le secteur culturel un des pays qui était le plus attentif quand même à soutenir les entreprises, et notamment les entreprises culturelles. Donc on est quand même nombreux à avoir pu bénéficier d'aides, soit de droits communs du type fonds de solidarité pour les entreprises, que tout le monde connaît maintenant, soit d'autres dispositifs sectoriels où, selon la nature de notre activité et le type de progression qu'on fait, on va être aidé plus ou moins différemment. Il y a quand même des gros écarts, des grosses disparités, puisque par exemple, des salles qui sont plutôt à tendance musicale dans la couleur de leur programmation, comme les nôtres à l'Archipel et à l'Atypique Théâtre, elles ont bénéficié d'un soutien 6 fois supérieur à des salles qui font uniquement du théâtre ou d'autres arts, d'autres disciplines que la musique. Donc il y a des grosses disparités, bon, qui s'expliquent, mais voilà, qui sont réelles. Et puis, il y a tous ceux qui, malheureusement, n'ont pas pu être aidés parce qu'ils ne rentraient pas dans les cases. Et c'est notamment parmi les lieux, des lieux importants à Avignon, les lieux qui ont une activité exclusivement saisonnière et qui sont montés pour le temps du festival. Je pense à des lieux comme l'Espace Alia, par exemple, ou la Présence Pasteur, qui sont des lieux qui sont montés de toutes pièces pour les 3 semaines que dure le festival et qui sont démontés. Et eux, eh bien, leur spécificité fait qu'ils ne rentrent dans aucune case d'aide sectorielle et donc ont été, pour l'instant, laissés sur le côté, n'ont pas été soutenus. Et ça fait partie du boulot de la Fédération aussi, de faire reconnaître la diversité des modèles et que dans une situation de pandémie, tous doivent être aidés. Et pour l'instant, et c'est un des points de désaccord, par exemple, que nous avons eu avec l'association coordinatrice du OFF AFC, eh bien, quand elle s'est retrouvée chargée de mettre en œuvre le fonds d'urgence pour le OFF, donc qui est un fonds d'État financé par le ministère de la Culture en direction des théâtres privés d'Avignon non subventionnés, eh bien, il y a eu des disparités qui ont été créées entre les théâtres avignonnais. Et là-dessus, la fédération s'est mobilisée pour demander à ce qu'effectivement il y ait une rectification qui soit faite pour que personne ne soit laissé sur le bord de la route. Et ça nous semble absolument fondamental d'avoir ça en tête quand on est en situation de pandémie qui touche tout le monde.
Évidemment. On va parler peut-être du prochain off. On ne sait toujours pas, on espère quand même qu'il aura lieu, mais vous avez déjà projeté des perspectives en direction de ce off 2021 aléatoire? Ça faisait partie des thèmes de votre conférence de presse, c'est pour ça que je vous pose la question.
Pour l'instant, nous, au niveau des compagnies, par exemple, Michael Perras, si je parle pour nous de l'Atypique Théâtre et de l'Archipel Théâtre, l'ensemble de la programmation qui devait avoir lieu en 2020 était basculée en 2021. Mmh. On n'a eu que 3 annulations. Là, on commence à avoir des demandes toutes les semaines. Ça continue. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait pas, on espère, mais on se prépare. De toute façon, pour préparer un off, c'est 1 an de travail, sinon plus. Donc, et on ne peut pas arrêter. Il faut continuer à travailler, en tout cas, c'est important.
C'est d'autant plus dur quand ça fait 1 an qu'on l'a préparé, qu'on l'apprend à la veille.
C'est ça.
Le festival est annulé.
Mais en même temps, il faut continuer à travailler, faire. Même si on se pose des questions.
Ce nouveau confinement et cette deuxième vague, on a le droit quand même de répéter, de travailler.
Oui, ça c'est une grande chance, effectivement.
Un avantage aussi.
que de pouvoir investir les lieux quand même spectacle, et puis nous de les faire vivre, de ne pas rester avec des portes closes encore une saison. Donc effectivement, il y a des projets de création qui naissent dans les théâtres, et c'est tant mieux. Après, sur 2021, bien sûr, on continue à travailler, mais là, on se retrouve de plus en plus pris dans un étau qui est lié au temps qui passe. Mmh. Et peut-être que c'est ça qu'il faut affirmer un peu plus fortement auprès de la puissance publique, c'est que les théâtres ou les salles de cinéma, enfin les lieux qui ont une programmation, ça ne se rouvre pas comme un commerce de bouche ou un restaurant où en 72 heures, vous remettez votre cuisine en route, vous remplissez vos frigos, oui, et c'est parti.
Nous,
c'est pas possible de travailler comme ça, et particulièrement dans le off, où les programmations qu'on fait, elles dépendent de la volonté des compagnies de venir jouer dans nos salles, puisque les compagnies louent pour leur grande majorité des créneaux pour venir jouer. Donc, à partir du moment où une personne, enfin une compagnie veut venir jouer, mais qu'elle ne sait pas dans quelles conditions elle va pouvoir jouer, si elle va avoir des contraintes sanitaires ou pas pour pouvoir fonctionner, de quelle manière elle va rentabiliser son investissement avec du coup un brouillard total sur les réelles contraintes sanitaires et mesures qui seront mises en place sur le mois de juillet, eh bien, on se retrouve aujourd'hui pris dans cet étau très difficile où en fait on ne peut pas travailler aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, théâtre, on ne peut plus, bon, nous, on est dans un cas particulier, puisque comme Michael l'a dit, on a eu un report quasiment à 90% des dates, enfin des compagnies qui devaient jouer chez nous en 2021 qui viennent en 2021. Mais c'est pas ce qui se passe partout.
Tout le monde, bien sûr.
Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, on a énormément de collègues qui nous font le retour, qu'ils ne peuvent pas signer de contrat avec les compagnies, précisément parce qu'ils ne savent pas quoi mettre dans leur contrat. Ils ne savent pas leur donner des dates, ils ne savent pas leur dire s'ils vont pouvoir les acquérir ou pas, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les mesures sanitaires, si elles, on applique les protocoles actuels avant le deuxième confinement dans les salles de spectacle au off, ça veut dire que minimum, on a entre 2 à 3 créneaux par jour qui sautent pour la simple et bonne raison qu'il faut, va falloir laisser du temps pour aérer et désinfecter mais tous oui, les espaces de salles. Et donc, 2 à 3 créneaux en moins pour les théâtres, c'est un bouleversement de leur modèle économique et de leur équilibre. Et ça veut dire qu'il y a des compagnies, comme, par exemple nous qui avons signé déjà tout, puisque c'est un report de 2021, il faut qu'on en enlève. Comment est-ce qu'on les enlève au
et
hasard
puis, c'est des petites voilà. jauges, c'est pas des grandes des
bah oui, mais pour les grandes, c'est pareil.
S'il faut diviser par deux, en plus, le nombre de publics, pour vous, ça devient compliqué.
Donc ça, c'est un vrai problème. Toujours dans les protocoles actuels, les protocoles sanitaires imposent les mesures de distanciation, c'est-à-dire de laisser des places vides entre des groupes de spectateurs. Ça, sur le off, ça a un impact rédhibitoire, parce que ça veut dire que nous, exploitants de salles, on loue des espaces qui ne sont exploitables qu'à 70% de leur capacité d'accueil. Donc on vend un service, entre guillemets, dans le cas de la location de nos salles, à des compagnies qui ne vont pas pouvoir l'exploiter à 100%. Donc logiquement, les compagnies nous disent, et c'est bien normal, nous, je suis désolé, mais on ne va pas payer 100% d'un prix pour un service qu'on va pouvoir utiliser qu'à 70%.
D'autant plus qu'il y a des salles qui ont 30 places. Quoi, ou
c'est
40
ça,
places,
voilà, on se retrouve avec 15 spectateurs, des jauges dérisoires. Donc ça, pareil, pour que ça puisse fonctionner et qu'il y ait un off en 2021, parce que à la Fédération, on va être clair, hein, il y a 3 scénarios qu'on a envisagés. Le premier, on exclut qu'il puisse avoir lieu, c'est-à-dire un retour à la normale à 100% et qu'on se retrouve dans la situation de 2019 en 2021. Ça, on l'a balayé,
ouais,
ça n'aura pas lieu.
Plus, ouais.
On sait qu'on aura un off qui sera, s'il a lieu, dans des conditions dégradées et avec des contraintes sanitaires qui vont avoir un impact économique auxquels il faut apporter des réponses pour que le off ait lieu. Et donc, très concrètement, notre position à la Fédération, elle est simple, c'est de dire que à partir du moment où il y a des contraintes qui imposent un bouleversement du modèle économique et le chiffre d'affaires des 2 partenaires que sont les théâtres et les compagnies va être impacté, alors il faut des mesures compensatoires avec de l'argent public qui viennent compenser ce risque. Parce
des aides, des subventions,
bien sûr,
c'est ça.
Oui,
des aides.
Mais c'est ce qui se fait actuellement pour tous les théâtres de France avant le deuxième confinement, c'est-à-dire qu'ils ont été mis en place des fonds de compensation billetterie pour justement réguler cette problématique de la perte de jauge d'exploitation. Ont été mis en place des aides spécifiques au travers de différents fonds de solidarité pour pouvoir ouvrir dans des conditions restreintes, pour pouvoir prendre en charge les surcoûts qui sont induits par toutes les mesures Covid. Enfin, acheter du gel, des masques, du matériel, tout ça, ça a un coût. Voilà, c'est entre 0,50 et 0,75 centimes par billet, il faut le savoir quand même. Donc, globalisé à l'échelle du OFT, on a fait le calcul à la Fédération, c'est entre 600 à 900 000 euros pour l'ensemble du festival. Rien que de pouvoir assumer ce surcoût.
Le gel et les masques, quoi.
Voilà, c'est ça, oui. Bah oui, le volume est tel que... Oui,
et le personnel adéquat, s'il faut...
C'est ce que j'allais dire, c'est que des fois, il faut rajouter du personnel également qui rappelle aux gens qu'il faut qu'ils se mettent là, qu'ils se mettent du gel sur les mains, etc.
Donc,
ça ne se fait pas naturellement, des fois.
C'est ça.
il est absolument essentiel que les pouvoirs publics, État et collectivités, accompagnés des organisations professionnelles qui, du secteur, prennent la mesure de cela, parce que sinon, il n'y aura pas de off. Il n'y aura pas de off, pas forcément à cause de conditions sanitaires qui empêcheraient que le off ait lieu, mais simplement parce qu'on n'aura pas pris en considération la nécessité d'une intervention forte de la puissance publique, et surtout une anticipation en amont des scénarios à mettre en place pour que ça puisse fonctionner. Et pour nous, c'est ce qu'on défend à la Fédération, c'est qu'il n'y a pas 36 manières d'aborder la chose. Il faut partir du scénario le pire, c'est-à-dire les pires conditions d'exploitation et d'ouverture pour nous, avant un reconfinement. Et que si on part de là aujourd'hui, alors si amélioration de la situation grâce à la campagne de vaccination, etc., on sera toujours en mesure de, comment dirais-je, d'élargir le cadre d'accueil de nos compagnies et de, pour faire fonctionner le festival. Alors que si on part dans l'option inverse, c'est-à-dire de dire on attend de voir si ça va mieux avant de décider quelque chose, eh bien par défaut, les compagnies et les théâtres ne pourront pas travailler. Et à partir du moment où ils ne pourront pas travailler, eh bien le off ne pourra pas se mettre en place. Et nous, on a posé une date par rapport à ça, qui est une date non pas, enfin, qui est butoir si on veut, mais enfin qui est une date de référence, c'est-à-dire qu'au-delà du 1er mars, donc c'est-à-dire dans un mois et demi à peu près, au-delà du 1er mars, eh bien, on estime que si rien n'a avancé par rapport à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire le brouillard total, puisqu'aujourd'hui on n'a rien, enfin rien n'est prévu, c'est-à-dire il n'y a aucune mesure compensatoire qui est envisagée au-delà du 30 juin au niveau national, c'est pas seulement pour le off, donc il n'y a rien. Si on n'a pas de visibilité sur combien de spectacles on peut accueillir par jour en moins par rapport à ce qu'on accueillait d'habitude, etc., on est totalement paralysé, et si cette paralysie, elle se prolonge au-delà du 1er mars, alors on va rentrer dans une phase extrêmement compliquée qui pourra peut-être amener par défaut à une annulation du off tel qu'on le connaît. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de spectacle ou de programmation pendant le mois de juillet, ça veut dire que c'est en tout cas ce qu'il y aura, ça ne sera pas le off, ça c'est sûr et certain.
Alors cette année, au mois d'octobre, on a quand même vu une semaine d'art en Avignon, ou à Avignon, enfin, je sais pas comment on l'a dit, ce qui veut dire que aussi au niveau des théâtres indépendants, il y avait des programmations qui ont lieu en octobre.
Oui, oui, on était 15 okay. théâtres adhérents à la Fédération des théâtres indépendants d'Avignon à ouvrir nos salles. Mmh. On avait à peu près
60 spectacles.
60 spectacles.
On est loin des 3000 du off, mais c'est ça. C'est déjà
avec,
ça.
Avec bien sûr des mesures de distanciation, donc. Donc
des jauges réduites.
Des jauges réduites. Donc, on a, pour certains, on a doublé le nombre de représentations de chaque spectacle par jour. Voilà, on a été heureux, du moins les artistes ont été heureux de retrouver leur public, tout comme nous, de retrouver les artistes sur scène. Voilà, ça a vraiment fait du bien de pouvoir enfin réouvrir les salles et faire que le spectacle vivant puisse s'exprimer.
Est-ce que vous pensez remettre. Recréer une alors, deuxième oui, saison de ce alors,
un deuxième rendez-vous va avoir lieu à partir du 24 avril jusqu'au 1er mai.
D'accord.
Voilà, et là pour l'instant, on est entre 15 à 20 théâtres de la Fédération à ouvrir nos salles.
Ça s'appellera Indépendance.
C'est
avec
ça.
Un oui. S entre parenthèses.
C'est ça.
Et l'idée, c'est vraiment qu'il y ait deux rendez-vous par an, en fait. Un au printemps et un à l'automne. Parce qu'indépendamment du fait que c'est la crise, effectivement, qui nous a poussé à organiser ça en concomitance avec la semaine d'art initiée par le festival IN d'Avignon, du coup, on s'est dit que c'était vraiment intéressant de pouvoir présenter au public avignonnais et aux professionnels qui le souhaitent, dans des conditions différentes de celles du festival OFF, des spectacles qui seront programmés mais dans tous les cas au festival. Et le fait de faire ça à l'automne et au printemps, ça permet de rythmer aussi la saison culturelle avignonnaise avec ces temps-là qui nous semblent vraiment intéressants pour développer ce qu'on souhaite porter au sein de la Fédération une fois que toute la crise sera passée et que ces mauvais moments seront derrière nous, c'est-à-dire de véritablement développer le potentiel d'Avignon au travers des salles de spectacle, parce qu'on a quand même c'est incroyable,
ce il y a 138... Avec tout ce qu'on a, théâtre, ça c'est bien que voilà. Ça vive plus et le reste de l'année.
Et on espère donner envie aux collectivités, à l'État, de pouvoir vraiment se pencher sur un projet de ce que pourrait être une cité du théâtre, dans laquelle, effectivement, on pourrait ainsi amener Avignon à non seulement être la capitale de la diffusion du spectacle vivant, ce qu'elle est déjà au travers du OFF, mais aussi la capitale de la création, en accueillant tout au long de l'année des résidences dans nos salles, qui pour une grande partie demeurent vides et inoccupées, ce qui est bien dommage.
C'est vraiment dommage.
Des espaces de travail qui ne soient pas
valorisés. Un public public, non? Quand on le voit, enfin, on l'a vu avec, au mois de février, quand il y avait le festival amateur, il y a quand même un public qui se déplace.
Oui, ah oui, oui, oui.
Même hors saison, quoi, au mois de février.
Ah oui, hors saison, tout à fait. Oui, oui.
Donc il y a peut-être un vrai potentiel, justement, de créer des choses avec bah, tous les acteurs que vous êtes.
Ouais, et surtout ça. Quand on sait que le public avignonnais n'est pas le public du Festival Off,
bah oui.
Il y a un vrai enjeu de territoire et de développement culturel à travailler sur des publics avignonnais qui se sentent peut-être pas tous concernés ou en tout cas impliqués dans la fréquentation du Festival Off. Et on pense vraiment qu'un travail à l'année peut permettre de redynamiser la question de la fréquentation du Off par un grand nombre d'Avignonnais eux-mêmes sur le mois de juillet. Parce que c'est pas évident. Enfin, surtout Avignon, c'est, voilà, c'est une ville qui connaît quand même des difficultés sociales importantes, où il y a une paupérisation significative de la population. Il y a cette fait dedans, dehors, avec les remparts, qui créent quand même une barrière physique et aussi psychologique. On sait bien, toutes les études l'ont montré, que franchir la porte d'un lieu culturel, c'est pas inné. Enfin, ça demande d'être accompagné pour se faire. Et ça, clairement, pendant le temps du festival, les compagnies comme les théâtres, elles sont incapables de faire ce travail-là. Parce que
certains théâtres le font, comme le Chêne Noir, qui reçoit des élèves toute l'année, etc.
Oui, mais c'est ça, mais...
Après, c'est pas donné à tous de pouvoir le faire.
C'est pas donné à tous, et puis ils sont accompagnés pour le faire. En fait, ils ont une mission de service public qui justifie des subventions de la part des collectivités et de l'État pour accomplir ce travail de territoire.
Du coup, des occasions comme ça, ça serait vraiment des opportunités à créer avec soit des centres sociaux aussi, ou des écoles, et créer des ponts entre l'extérieur, l'intérieur, les spectacles. C'est vrai que ça pourrait être très intéressant. Puis ça donnerait peut-être Avignon en tant qu'exemple.
Tout à fait.
Parce que ça n'existe pas trop. Et puis ça pourrait peut-être.
Il n'y a pas d'équivalent.
Le laboratoire de comment le social peut se mixer avec la culture. Ça peut être
alors, il y a des expériences multiples qui sont déployées au niveau du territoire national. Mais là, ce qui est incroyable à Avignon, c'est qu'il y a 138 salles.
Bah oui.
En plus des salles publiques. Donc, encore une fois, il y a un potentiel absolument incroyable d'énergie et d'envie aussi de faire se voir un projet comme celui-là se développer. Et il y a une grande envie aussi des compagnies d'investir Avignon autrement qu'en payant un créneau au mois de juillet et qui auront envie de faire des choses. Enfin, on le voit bien avec tous ceux qui accueillent déjà des résidences, combien c'est important pour ces compagnies.
Bah oui, parce qu'il faut comprendre quand même que quand on fait du théâtre qui est concret, c'est pas seulement pour faire des entrées, c'est aussi pour dire quelque chose, pour exprimer une pensée.
C'est d'abord,
quand on en parle comme ça, du off, des entrées et tout, on se dit, on oublie quand même l'essence de la chose. C'est partager des idées, des émotions, ou même des prises de position, des opinions.
C'est ça,
donc ça peut être très intéressant. Les perspectives alors ? Il y a ce festival, voilà, il y a le off.
Après, il y a d'autres initiatives qui sont nées. On peut en parler parce qu'on est impliqué dedans avec, par exemple, le théâtre de l'Arrache-Cœur et le théâtre du Rempart. Voilà, où on a des programmations les uns et les autres qui sont majoritairement musicales. Et du coup, on a porté un projet auprès du Centre national de la musique, de la région sud et de la DRAC PACA pour obtenir ce qu'on appelle un contrat de filière et qui va être destiné, enfin c'est des moyens, c'est de l'argent, on a obtenu une subvention pour dire les choses clairement, pour pouvoir développer une structuration en fait des programmations musicales et notamment musique actuelle sur Avignon et dans ce qu'on a proposé, évidemment, à l'intérieur du off, puisqu'il y a quand même pas mal de lieux qui programment de la musique, même si ça reste minoritaire dans les programmations, mais qui mériterait d'être valorisé, parce que nous, on le voit, puisque c'est notre cas, on programme essentiellement de la chanson à la typique théâtre, donc il y a une vraie demande des programmateurs qui viennent au off pour découvrir aussi des spectacles musicaux à Avignon et être un lieu.
Puis Avignon a perdu sa SMAC. Sa scène de musique actuelle,
tout à fait, oui.
Qui est allée un peu plus loin.
C'est ça.
Donc c'est vrai que ça laisse un vide quand même.
Ça laisse un vide.
Il y a un vrai travail à faire aussi.
Voilà, il y avait une opportunité là de mutualiser encore une fois les énergies et les compétences et l'expertise de plusieurs directeurs de salle pour développer cette dimension-là. Donc ça fait partie des projets qui, on l'espère, là aussi, si les conditions sanitaires nous le permettent, vont voir le jour en 2021.
Pour le public ou d'autres professionnels, il y a un moyen de suivre votre actualité, un site internet, peut-être un mail, enfin je ne sais pas qui
nous permet. On a nos sites internet.
Ouais. Chaque
théâtre a son propre site internet.
Ah, d'accord.
On est en train de finir de finaliser le site de la Fédération des théâtres indépendants Voilà, donc on est en train de recueillir l'ensemble des informations de tous les théâtres. Donc ça, c'est pareil, c'est très long, c'est un travail très très long à faire. Voilà, mais c'est en train de finir d'être mis à jour.
C'est vrai que vous êtes jeune.
Voilà, c'est ça.
La fédération est très jeune.
Donc. Et du coup, le site, c'est www.ftia.fr. Et du coup, sur le site, on peut s'inscrire à la newsletter. Et on est assez actif pour envoyer de l'information relativement régulièrement à l'ensemble des personnes qui le souhaitent. Parce qu'effectivement, c'est un projet qui est en construction, hein, comme vous l'avez dit, on est tout jeune.
Bah oui.
Mais c'est ça qui est hyper stimulant et aussi excitant. Voilà, c'est que du coup, on a vraiment un truc à inventer que personne n'a fait, comme dirait l'autre. Et donc, c'est assez challengeant. C'est vrai que dans une période aussi sombre et aussi difficile en termes de perspective, le fait d'être agrégé en collectif, comme ça permet de se sentir moins seul et aussi d'être proactif sur un sujet commun qui prépare l'après-crise. Parce qu'évidemment, vous parliez de perspectives, les perspectives que tous les professionnels du spectacle vivant, quels qu'ils soient, ont en tête au jour d'aujourd'hui, c'est la relance. Et comment est-ce que la reprise de l'ensemble des processus de création, de diffusion, de production vont se remettre en marche pour pouvoir faire en sorte que ce ne soit qu'un mauvais souvenir et pas un enterrement de première classe.
Puis on dit aussi que des fois ces périodes-là, ça permet justement de voir émerger des idées nouvelles, des projets nouveaux. Donc peut-être que le fait de vous réunir aussi, ça crée un terreau comme ça favorable.
C'est des points de rupture à partir du moment où il y a quand même la capacité de se projeter. La difficulté qu'on a avec cette saloperie de Covid, c'est qu'à chaque fois qu'on croit qu'on est arrivé au bout du chemin, au bout du tunnel, paf, il y a encore d'autres difficultés qui viennent derrière et qui repoussent encore plus loin la perspective de cette reprise et de cette relance. Et c'est à tel point, enfin, on l'a dit hier dans la conférence de presse qu'on a faite au Théâtre du Rempart, c'est que le ministère de la Culture a validé une augmentation colossale du budget du ministère de la Culture qui prend en compte un plan de reprise, un plan de relance pour la culture en France. Et malheureusement, plus cette crise Covid et cette pandémie va perdurer et empêcher justement et paralyser le secteur, plus ce plan de relance risque de se transformer en plan de sauvegarde parce que...
sauvegarde. C'est la bagaille, hein.
Et ça, c'est grave parce qu'il va falloir avoir beaucoup de courage politique pour remonter au créneau et remobiliser effectivement la nation pour sauver non seulement un patrimoine mais aussi tout un secteur économique fondamental dans le développement du pays.
En tous les cas, une chose est sûre, c'est que le public est avec vous. Enfin, moi, j'ai eu des exemples de différentes salles ou quoi, où quand même le public reste présent, répond, suit sur les réseaux sociaux, soutient. Ça fait plaisir quand même de voir ça aussi, que le public est là.
Oui, le public, les professionnels aussi. Hein, on avait lancé un sondage avec les EGOF en partenariat.
C'est les états généraux du OFF, les EGOF. D'accord. C'est une structure qui, elle aussi, est née pendant le confinement pour réfléchir au devenir du OFF et comment réinventer le OFF de demain.
Voilà. Et puis, donc, il y a eu un sondage express qui avait été fait sur 4 jours où ça avait réuni un peu plus de 60% de professionnels du spectacle.
Ah oui.
Donc,
Toute la France ou
au niveau national. Et on a eu plus de 500 réponses en 4 jours. Voilà. C'est dire l'importance que peut représenter effectivement le OFF dans le paysage.
On le voit l'importance, puisque le ministre se déplace spécialement. Enfin,
oui, alors ça
c'est des signes. Oui, mais c'est quand même des signes de l'importance.
Ça ne suffit pas pour une importance, vous savez, dans un engagement de la collectivité, de la puissance publique, ça se chiffre. Et ça se chiffre en montant de subventions.
Je veux dire, c'est au moins une reconnaissance. On voit qu'il se déplace.
Oui, c'est reconnaître que ça existe. C'est déjà pas mal, c'est un premier pas, mais on est loin d'une légitimation. Une légitimation, elle se traduit nécessairement par de la subvention publique, si on est dans une logique de cet ordre-là. Or, aujourd'hui, il faut savoir que la contribution de l'État au OFF via une subvention annuelle, et ce, depuis, je crois, seulement 2 ou 3 ans, donc c'est tout à fait récent par rapport aux presque 60 ans d'existence du OFF, c'est 40 000 euros. Voilà. Quand vous mettez ça en regard du fait que c'est AFC qui a signifié ces chiffres, que le OFF génère en retombées économiques pour l'ensemble du territoire du Grand Avignon, donc uniquement le OFF, uniquement le OFF, des retombées qui sont de l'ordre de plus de 50 millions d'euros, 40 000 euros, voilà, c'est un peu, comment dirais-je, symbolique comme
oui,
reconnaissance.
Carrément symbolique.
Et après, c'est très bien, il faut bien commencer par quelque chose. Ouais. Mais moi, j'ai été directeur de scène conventionnée, subventionnée par l'État. 40 000 euros, c'est moins que le seuil de la plus petite scène conventionnée de France dont j'ai été directeur. Donc, c'est pour vous donner un rapport d'échelle.
En même temps, le off, c'est difficile parce que c'est un peu la pagaille par définition, puisque c'est non officiel, c'est.
C'est pas la pagaille, c'est pas structuré, c'est pas structuré voilà. Comme le ministère comme aurait besoin que ce voilà. soit pour pouvoir l'identifier et le rentrer
c'est peut-être aussi
dans,
pour ça que
y a dans ces cases. Voilà. Mais ça demande de la pédagogie, du travail et beaucoup d'explications, parce que là, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte avec la fédération, c'est qu'à chaque fois qu'on se retrouve, y compris devant des journalistes, alors pas vous, parce que vous avez l'air de bien maîtriser le sujet du off, mais on en a rencontré d'autres où, en fait, on est obligé d'expliquer comment fonctionne réellement le off, parce que les représentations qui sont projetées sur cet événement qui n'a aucun équivalent en France, eh bien, font que la vision est biaisée et qu'on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens croient savoir, mais ne savent pas réellement comment fonctionne le off, quelle est sa fonction première dans l'articulation de la diffusion du spectacle vivant au niveau national, et comment fonctionnent les théâtres privés d'Avignon, qui ont un fonctionnement certes spécifique et particulier, mais qui est lié à la saisonnalité, rien de plus. Donc voilà, tout ça, c'est un gros travail de pédagogie qui est à faire auprès
et de communication
de tout le monde,
aussi.
Et de communication et de rabâchage, dans le bon sens du terme, pour que la vision change, voilà, qu'il y ait une autre image.
Ou quand même que la compréhension s'élargisse, qu'on comprenne mieux, qu'on
tout
voit.
À fait,
c'est ça.
Puis surtout qu'on a envie de venir.
C'est ça.
Et de partager, parce que c'est surtout des grands moments de partage, de découverte, c'est de clair. Création, de reprise, de spectacle. Mais écoutez, j'espère que tout ira pour le mieux.
On va tout faire pour
bon,
travailler à ça.
Et que, bah, que tout se passera bien et qu'on arrivera quand même à voir des spectacles, ne serait-ce qu'en avril, pour Indépendance. Et puis après, en juillet, on l'espère vraiment, puisque nous sommes aussi la web radio du off, donc on aimerait bien que qu'on travaille beaucoup cette année, au mois de juillet. Harold David, merci beaucoup. Michael Perras, merci beaucoup.
Merci à vous.
Fédération
à vous.
Des théâtres indépendants d'Avignon, c'est-à-dire
FDIA.
Voilà. Pour retrouver sur Internet. Et puis, à très bientôt. N'hésitez pas à revenir si vous avez des informations ou des communications à faire.
On en aura.
Au revoir.
Merci.